Voilà. Alors, moi, je m'appelle Balavoine, je suis navigateur et pilote. Et lui ?
Et moi, je m'appelle Jean-Luc Roy, je suis pilote et navigateur.
Voilà.
Ça, c'était l'année dernière, avant le départ du Paris-Dakar 1984 de Daniel Balavoine, ce qu'il appelait la fête de la deuxième passion de sa vie, l'automobile.
Et ça, c'était le 15 janvier 1986. Il y a 40 ans, la France perdait l'une des voix qui incarnait la jeunesse, 33 ans, le rock français et les mots de son temps. Bonjour et bienvenue dans cette 8e visite de la saison 9 du Panthéon des Cousus sur Radio Alpa 107.3 au Mans et radioalpa.com partout ailleurs. Cette semaine, c'est donc une première visite à Balavoine, plutôt axée sur ses tirades médiatiques bien senties et sur ses souvenirs dans des bahuts cathos. Le tout agrémenté de quelques titres dont certains ne passent pas si souvent sur les ondes. Retour au JT de midi sur la 2 et à sa passion du rallye et des engins à moteur.
Je participe au Paris-Dakar, à mon avis, pour à peu près les mêmes raisons que les trois quarts des gens qui le font, c'est-à-dire pour le sport, pour le voyage, pour l'aventure, pour l'amour de la voiture, pour l'Afrique, pour la beauté du paysage, pour rencontrer des gens différents, pour, pour vivre autre chose, pour prendre des vacances, pour prendre de l'air, pour pas avoir de téléphone dans la voiture, pour plein de choses, pour conduire vite, pour essayer de naviguer et aider mon camarade à conduire vite. Qu'est-ce que je peux vous faire d'autre encore? C'est-à-dire, si vous demandez ça aux autres personnes qui le font, je pense qu'ils vous répondront à peu près la même chose.
Voilà, Daniel, venez donc me rejoindre dans cet endroit qui est tout à fait sympathique, qui s'appelle le bar.
Oui, le bar.
Le bar,
donc. Mesdames et messieurs, le bar.
Mesdames et messieurs, le bar.
Le 29 novembre 1985, invité par De Chavannes, également féru de bécane en tout genre, dans C'est encore mieux l'après-midi, qu'il ne lui reste qu'un mois et demi à vivre.
Paris-Dakar deux fois.
Deux fois, oui.
Dont une fois gagné. Pas enfin, gagné. Jusqu'au bout, quoi.
Oui, une fois pour moi gagné, oui, parce que la première fois c'était un peu galère, quoi. On a fait 5 jours et au revoir. La deuxième fois on est allé jusqu'au bout et pour moi c'est ce que j'appelle gagné, voilà.
Donc cette année vous ne le refaites pas?
Ben non, je pense qu'ils vont le faire sans moi, voilà.
Ça c'est une petite larme quand même, non?
Aujourd'hui non, mais je sais qu'entre les deux années où je l'ai fait, il y a une année où je ne l'ai pas fait. Et j'ai eu beaucoup de remords et je me prépare donc à avoir une fois de plus beaucoup d'abord de regrets et ensuite des remords.
L'Aziza, c'est bien sûr un cri du cœur contre la montée du racisme et de l'extrême droite, du FN et de Le Pen, mais c'est aussi en l'honneur de sa dernière compagne, Corinne Barcessa, dite Coco, née au Maroc et mère de ses deux enfants, Jérémy, né en 84, et Johanna, née 5 mois après la mort de son père. Témoignage au JT du soir, le 15 janvier 86.
L'hélicoptère s'est d'abord posé une fois, et puis il a redécollé. En suivant un peu les phares d'une voiture. Seulement, ils n'ont pas vu qu'à un certain moment, la voiture montait, alors qu'il y avait une dune de 30 mètres, la première depuis 150 km. Et l'hélicoptère, s'est crashé.
L'artiste survolait le Dakar à des fins humanitaires, notamment pour installer des pompes à eau dans le désert.
Balavoine avait demandé à nos reporters de ne pas lui faire de promotion sur cette initiative, mais d'en parler simplement, afin que cela soit utile.
Vibrer à toutes les causes généreuses.
Il n'y a pas d'héroïsme, je veux dire, c'est simplement qu'on s'est aperçu, et on aimerait bien que les gens s'en aperçoivent en même temps que nous d'ailleurs, que finalement c'est assez facile de s'en occuper. C'est pas tellement compliqué. Il suffit de le vouloir, et c'est pas un gros sacrifice. Je comprends que les gens soient agacés par les quêtes, les charités, les machins, tout ça. Ça, en plus, c'est agaçant. Et pour les gens d'ici, et en plus, ça manque de dignité pour les gens de là-bas. Et dans ce sens-là, d'ailleurs, on fait une autre opération qui s'appelle Action École.
Voilà, dans les écoles.
Qui en fait est.
France Gall, Michel Berger.
Il y a France, Michel Berger, il y a Carole Bouquet, Richard Berry, il y a Gérard Mancé, enfin, on est une dizaine. Une idée qui a été issue d'une opération qui s'appelle School Aid, qui a été faite en Angleterre aux États-Unis, et c'est une opération qui va se faire avec les enfants, et c'est plus présenté sous l'aspect de la charité ou de l'aide ou ceci ou cela, c'est simplement avez-vous envie demain d'hériter d'un monde comme celui-là, c'est-à-dire d'un monde où il y a 15 millions de gens qui meurent de faim par an, plus à peu près 2 milliards de personnes qui cherchent à quatre pattes de la nourriture, Si vous ne faites rien, eh bien vous allez hériter de ça, et vos enfants, c'est ce que vous leur lèguerez aussi, ça ne pourra aller que de pire en pire. Il faut maintenant tout de suite dire aux générations les plus jeunes, notre survie, parce que trop peu d'hommes politiques en parlent, parce qu'évidemment ça ne les arrange pas, notre survie dépend aussi de la survie des pays du tiers-monde. Donc c'est plus aussi héroïque et aussi, voyez-vous, j'ai du panache, je vais en Afrique.
Ah oui, là ça démystifie un peu quand même.
C'est beaucoup de lucidité, c'est dire faites attention, si vous ne faites rien, il va y avoir un retour de manivelle qui va être beaucoup plus sévère.
Drôle de Galaxie est sorti en 79 sur l'album Face Amour, Face Amer. Dans ses apparitions médiatiques, il faut aborder deux Everest. Le premier, bien que le plus récent, date du 23 octobre 1983. Ce jour-là, un bâtiment du Drakkar à Beyrouth est la cible d'un double attentat tuant 241 soldats états-uniens et 58 parachutistes français. Parmi les présents se trouvait l'un des frères de Daniel, tout juste rescapé. Le soir même, il était l'invité de 7 sur 7, alors présenté par Jean-Louis Burga.
Concerné directement par ce qui...
Je ne veux pas faire pleurer dans les chaumières, mais je veux dire qu'on parlait tout à l'heure des adultes qui ne vont pas aux manifestations pacifistes, et je crois qu'il y a une juste raison à ça, c'est qu'ils ont eu leur guerre et qu'ils croient que nous n'en avons pas. On entend souvent dire les adultes, oui, ça se voit que vous n'avez pas connu la guerre, il vous faudrait une bonne guerre. Moi, je leur dis maintenant, bien en face, on l'a, la guerre. Ma mère a connu trois guerres, finalement, puisqu'elle est née pendant la première, elle a eu la deuxième guerre mondiale, et ce matin, elle a eu la guerre, la vraie, puisque mon frère est au Liban, et ma mère, à 7h du matin, a su qu'il y avait des soldats là-bas qui étaient morts. Bon, elle ne savait pas sur qui c'était tombé, et jusqu'à midi, elle s'est mordue tous les sangs pour savoir si mon frère était dans le tas ou pas. Alors je voudrais dire devant tout le monde que j'emmerde les anciens combattants, que j'en ai rien à foutre de tout ça, qu'on a autre chose à foutre que de s'occuper des anciennes guerres, qu'on n'a plus le temps de manifester pour ça, et que les jours des commémorations qu'il y a pour les anciennes guerres, on ferait mieux ces jours-là de manifester pour les guerres qu'il y a actuellement. Et que tout ça, si mon frère pouvait m'entendre, je lui dirais de revenir, parce qu'on lui dit qu'il va là-bas pour la paix, et ça, ce sont des mensonges. Il va là-bas pour les enfoirés des pouvoirs qui ont créé les guerres, où qu'elles soient, pour des idéologies et des religions, et que tout ça, c'est de la saloperie. Alors si mon frère m'entend, je dis qu'il se laisse pas berner, qu'il ne croit pas une seconde qu'il est là-bas pour la paix, il est là-bas pour utiliser des armes, pour faire le commerce et l'industrie des armes, il est là-bas pour défendre les idées des Russes ou des Américains, selon le camp dans lequel on se trouve, et des Syriens et des Palestiniens, et que tout ça, c'est de la merde. Il faut le dire maintenant aux gens, il faut qu'on nous change la vie, on voudrait apprendre à nos enfants autre chose que ce qu'on nous a appris. Alors je dis que tout ça suffit, qu'il nous faut la paix, qu'on veut la vraie paix, et qu'on veut que tous ces gens-là s'en aillent, et qu'on arrête de nous faire croire que tout se passe entre le socialisme et le capitalisme. Tout ça, moi je le dis, je le pense sincèrement, c'est de la merde et on n'en veut plus. Et j'emmerde tous les pouvoirs, d'où qu'ils soient, quelles que soient leurs idéologies, et j'emmerde en même temps ceux qui croient que c'est facile de le faire parce qu'ils n'ont qu'à venir le faire à ma place.
Voilà, tronche de cake, c'est moi.
Juste après Petit Homme mort au combat sur l'album de 83, Loin des yeux de l'Occident, nous voici dans le collège privé près de Dax où les balavoines étaient scolarisés encore au début des années 60. Apparemment un genre bétarame.
J'ai pas de souvenirs d'enfance. Je trouve que c'est casse-bonbon en plus les souvenirs d'enfance. J'ai appris les mêmes choses que tout le monde et j'ai laissé ce qui me plaisait pas et j'ai gardé ce qui me plaisait. C'est peut-être ça qui fait la différence avec certains.
Ça m'angoisse pas tellement d'être là. Je veux dire, j'étais plus angoissé avant d'arriver qu'en y étant. Finalement, je trouve que ça paraît assez dérisoire maintenant. C'est l'école libre, quoi. On a tant parlé toute l'année, quoi. C'est ça, l'école libre. C'est un endroit curieux. Mais ça, c'est surtout... Ce coin-là est surtout un lieu où il s'est passé un énorme chahut organisé de rébellion où le carrelage qui est là, en fait, on l'avait rempli de flotte. C'est-à-dire que ça faisait une couche d'un ou deux centimètres d'eau parce que le surveillant qu'on avait à l'époque se promenait la nuit. Effectivement, en pleine nuit, quand il est arrivé, qu'il a marché dans l'eau, ça a éclaboussé. Et on l'a entendu dans tout le dortoir. On était vraiment minots, on était petits. Hein, je veux dire. Et il nous avait fait mettre à genoux sur le parquet pendant 2 heures en demandant à celui qui avait organisé ça de se dénoncer. Et comme c'était moi, je me suis dénoncé. Et il m'a fait rester 2 heures le bras en l'air comme ça, comme s'il ne voyait pas. Et à la fin, il m'a fait « Je sais que c'est vous oh, !» oh. L'autre côté de la chapelle, où ils sont en train de sévir là encore, et il y avait la cour des petits. Alors ce que je faisais quand j'étais en classe, j'emmerdais bien 2 ou 3 mecs, puis quand ils étaient bien excités, je me barrais en courant dans la cour des grands, je rentrais comme une fusée, j'appelais mon frangin, je faisais « Guy, Guy, Guy !» Alors il disait « Mon frère, arrivé Zorro, et qu'est-ce qui se passe ?» Ils font que m'embêter, ils castagnaient les petits, ça me faisait beaucoup rigoler. Et puis je repartais, après j'étais content. Ça fait qu'après j'étais tranquille pendant 2 ou 3 semaines, parce que j'étais quelque part le chef, obligé, puisque j'avais un frère grand qui s'occupait de moi. C'était vraiment dégueulasse. J'étais de toute façon un petit garçon très, très dégoûtant, très méchant.
Face amour, face amère en 79, il y a aussi ces petits riens. Retour au doc de 84, Balavoine, le chanteur en état de marche, puis celui diffusé en juillet 86 à Fleur de Cœur.
Il y avait une promenade à la fin de l'année, on allait à Saint-Sébastien généralement. Et en retour, je me rappelle une fois, en effet c'est le souvenir que j'ai, on l'avait mis un peu en vedette, on lui avait fait chanter, mimer, je ne sais quoi, enfin il avait déjà le goût de... du spectacle, je pense, le sens de se mettre un petit peu en valeur.
Puis je me suis barré à la suite d'une punition, c'est-à-dire j'étais en classe d'études, et puis j'ai dû faire une connerie ou j'ai dû ne pas en faire, et j'ai eu une punition à ce moment-là qui était la punition la plus dure de l'école. On m'avait envoyé au téléphone, ça fait rire comme ça, mais le téléphone c'est une petite pièce, toute petite, vitrée, dans laquelle on t'enferme le temps qu'il faut, on te donne des lignes à faire, à copier. Quand les autres gosses vont se coucher le soir au dortoir, ils passent devant cette cabine, ils te font bonjour, et toi, tu es obligé de rester là sans dormir. Et comme je connaissais cette punition, je suis sorti avec mon pupitre, puisque je devais partir avec mon pupitre, je suis sorti du collège, et tout d'un coup, ça m'a pris comme une lubie. J'ai posé le truc dans les escaliers, je me suis barré, je suis sorti par derrière, j'ai traversé un champ de blé qu'il y avait derrière, je me suis retrouvé dans un camp militaire, sans faire exprès toujours, et là, comme j'avais mon frère au collège, tout le monde s'est mis à me chercher, paraît-il. et je me suis paumé dans la nuit, j'ai fait un peu n'importe quoi parce que la nuit est tombée ensuite. Et en repassant par la route, j'ai une vision spéciale d'un moment précis où la voiture du supérieur de l'époque, qui s'appelait La Rive, est passée. Mais juste à côté de moi, je me suis mis à quatre pattes et j'ai vu la tête de mon frère par la fenêtre. Ça m'a beaucoup marqué. Bon, ensuite, je me suis retrouvé au bord de la voie ferrée. Je me suis dit, je vais rentrer, je veux voir mon père. J'ai suivi la voie ferrée, mais dans le mauvais sens. Je me suis barré dans l'autre sens. Au lieu de partir vers Pau, je me suis retrouvé dans Dax. Et là, bon, il m'est arrivé quelques aventures. Je me suis retrouvé au bord de la Dour. J'ai traversé une autre école qui était l'école des frères. En pleine nuit, ils étaient en train de faire un feu. Et puis finalement, il y a un gars, un grand, ce qu'on appelait les grands de l'école, qui m'a trouvé, qui était lui un externe, qui m'a dit quand même que je devrais rentrer. Alors il m'a déposé à l'école. Et à ce moment-là, j'ai à nouveau pris peur. Je me suis rebarré et je me suis retrouvé dans l'école, dans la classe, dans la chambre d'un pion qui s'appelait Régis le Grand Éric, je me rappelle. C'était un pion et je me suis foutu sous le lit. Il n'était pas là puisqu'il était parti à ma recherche et plein de gens du collège ne savaient pas que j'étais rentré. Je me suis foutu sous son lit et je crois que ça paraît très romanesque, mais c'est pourtant l'exacte vérité. Je crois que c'est ce jour-là que j'ai décidé de faire de la musique sans le savoir, parce que c'est pour la première fois de ma vie à ce moment-là que j'ai entendu les Beatles. C'était en 62 ou 62-63 et c'était She Loves You. Le transistor était resté allumé et je crois que c'est comme ça que ma vie a commencé. Ensuite, j'ai eu un accueil royal et pour la première fois de ma vie, j'ai eu le droit de manger au réfectoire des professeurs. Et comme à ce moment-là, mon frère faisait médecine et avait une guitare, il a laissé tomber la guitare et continué la médecine et moi j'ai arrêté mes études et pris sa guitare. De toute façon, le spectacle, il faut le faire bien. C'est tout ce qui est intéressant. C'est-à-dire qu'il y ait 300 personnes, 500, 1500 ou 5000, c'est la même en bleu. Il vaut mieux partir avec 1000 personnes debout que 3000 assises. Voilà, c'est tout. Donc le but de l'opération, c'est quel que soit le nombre de personnes qu'il y a dans la salle, c'est de catcher, quoi. C'est la partie de boxe.
On les entend encore, c'est fou. Là, ça a marché. Nous, ce qu'on veut, c'est que les gens soient sensibles à la musique qu'on fait et de la manière qu'on y croit. C'est-à-dire, ces gens-là réagissent pas comme devant un chanteur qui fait de la guimauve. Parce que le chanteur fait pas de la guimauve. Les musiciens n'en font pas non plus, ils en ont témoigné ce soir. J'espère que ça s'entendra et que ça se verra. Les gens qui regardent d'habitude les émissions de télé comme celle-là sont conscients que la musique qu'on fait, c'est de la vraie musique rock française et que c'est pas de la musique rock anglo-saxonne avec des mots en français. Voilà, c'est à nous, c'est latin, salut, je vais changer de petite culotte, merci bien, bonjour.
Ma communion, bien sûr que oui, à l'école de curé, on était obligé de faire la communion. Bien sûr, j'ai gagné une montre ce jour-là. Je savais pas qu'on gagnait des trucs d'ailleurs, parce que si j'avais su qu'on gagnait des trucs, je l'aurais fait plusieurs fois. Ensuite, j'ai changé d'école et je me suis retrouvé à Pau, dans le sud-ouest. Et je pensais pas du tout faire de la musique. Je veux dire, mes frères chantaient ensemble souvent. Mais moi, ça me branchait pas trop, en fait. J'écoutais la musique des autres, j'écoutais les Stones, je faisais partie du clan des durs, c'est-à-dire ceux qui disaient que les Stones étaient mieux que les Beatles, alors qu'en fait, j'écoutais autant les Beatles une fois que j'étais chez moi. Mais moi, je voulais faire des études, j'avais déjà presque fixé de faire le droit, sciences politiques et des trucs comme ça. Mais ça m'est passé, je me suis soigné après, quoi, de manière assez profonde. Et j'avais dans mon idée l'utopie d'être député et de représenter quelque part ma région ou quelque chose comme ça. Je me définissais ce genre de truc. En fait, c'est-à-dire de faire un métier public. Et puis finalement, j'ai trouvé le discours de ceux qui étaient dans ce métier public, mais sans musiciens, tellement emmerdant et tellement identique et vulgaire que j'ai préféré prendre des musiciens pour camoufler mon discours direct. Mais c'est tout. Je me suis mis à la musique tard, en fait. Je me suis mis à la musique à 16-17 ans. Parce que justement, il y avait eu à cette époque-là mai 68. Et comme j'y avais été mêlé de près, en tout cas dans mon coin, eh ben, j'ai été déçu en voyant arriver les soi-disant révolutionnaires qui venaient nous tenir finalement le même genre de discours que les hommes politiques de l'époque. Et c'est-à-dire, c'était Alain Gesmard, Sauvageot, Cohn-Bendit, etc., qui faisaient des tournées en province comme les chanteurs, quoi. Et alors, on se faisait une image d'eux absolument extraordinaire. Et puis finalement, quand on les voyait arriver, ben, on entendait que des conneries, quoi. Que des bêtises. Ça m'a complètement démobilisé. et j'ai eu un petit peu le dégoût de
cet
tout.
Cet ado déçu a donné un jeune homme passionné, concerné par la chose politique. Comme le fameux moment avec François Mitterrand. Remettons les choses en place. Nous sommes le 19 mars 80, Mitterrand n'est pas encore tout à fait officiellement le candidat de la gauche. Il est invité au JT de midi, parmi les présents dans le public, des personnalités du sport, etc., et Balavoine en tant que jeune. Il n'a pas 30 ans, ses chansons passent à la radio, il est connu. Mais il n'a pas pu dire un mot jusqu'à la fin de l'émission. Alors il déboule à la table, s'empare d'une chaise vide et d'un micro et...
Je voudrais dire que limiter...
Partir, hein, si ça fait trois quarts d'heure que je suis là et que je m'ennuie à entendre des bêtises. Alors maintenant, si je peux rien dire avant la fin de l'émission, je ne parle pas pour vous, M. Mitterrand, parce que moi, j'avais pris plein de notes en venant dans votre formation. Non, je n'aurai pas le temps. Je le sais déjà que je n'ai pas le temps. J'ai juste le temps de me mettre en colère.
Est-ce que vous voulez commencer maintenant ?
Non, c'est le système de l'information française qui fait comme ça. J'aurai le temps, une minute, de m'énerver. Juste de m'énerver, de paraître pour un petit merdeux, un petit jeune de plus qui fout la pagaille partout. Je préfère m'en aller tout de suite. Si j'avais su que je n'aurais pu rien dire, j'aurais dormi beaucoup plus tard.
Je vous remercie. Souhaiter votre présence, Daniel Balavoine, dans ce studio pour parler des problèmes de la jeunesse. Je pense que nous aurons eu le temps. Nous aurions eu le temps d'en parler. C'était de ça, non pas de chanson. Et c'était pas de chanson dont il était question.
Je peux dire une chose importante. Si vous avez parlé pendant 10 minutes, au moins, de l'affaire Georges Marchais, dont tout le monde se fout strictement. Je vous signale que la jeunesse française se fout strictement de ce que M. Marchais faisait pendant la guerre.
Puis il liste les affaires de mœurs encore aujourd'hui non résolues, des ministres, etc. Même si pour plusieurs il serait question de bras armés du sac d'anciens de l'OAS.
Ça intéresserait mieux de savoir comment Gaston Defferre dirige sa mairie socialiste, qui n'est pas un modèle de société à Marseille. Ça intéresserait plus de savoir les jeunes Français comment M. Raymond Barre, qui est arrivé il y a 5 ans, ou 4 ans, ou je ne sais plus combien de temps, a dit que les salaires ne seraient pas diminués, mais qui a augmenté les cotisations de sécurité sociale. C'est beaucoup plus intéressant que tout ce que vous racontez. Georges Marchais, on s'en fout de Georges Marchais, il faut le savoir, ça. Il n'y a jamais eu un jeune ministre de la jeunesse en France. Il n'y en a jamais eu, c'est tous des vieux. Regardez M. Soissons. Enfin, vous n'allez pas me dire que c'est un homme représentatif de la jeunesse. Regardez comment je suis habillé. Ils sont plus souvent habillés comme moi, les jeunes, que comme M. Soissons. Il faut quand même pas rêver. Tout ça, ce sont des bêtises. J'ai encore pris plein de notes au fur et à mesure que vous parlez. Ce qui m'aurait intéressé, c'est de savoir à qui les travailleurs immigrés payent les loyers qu'ils payent. Qui ose tous les mois demander 700 francs à des travailleurs immigrés pour vivre dans des poubelles et dans des taudis? Ça, c'est ça que je voudrais qu'on m'explique, parce que moi, je ne le sais pas. La seule chose que je peux vous dire, Monsieur Mitterrand, j'en profite de vous avoir parce que je suis fier d'être là. Je peux vous le dire. On s'en aperçoit peut-être pas, mais vous pouvez pas imaginer ce que c'est pour un jeune d'avoir la possibilité de parler une minute. C'est pour ça que j'avais peur de pas pouvoir parler. J'ai peut-être du culot de faire ça. Je suis obligé de le faire comme ça parce que je dois faire vite. Ce que je peux vous dire, c'est que la jeunesse se désespère. Elle est profondément désespérée parce qu'elle n'a plus d'appui, elle ne croit plus en la politique française, et moi je pense qu'elle a, en règle générale, en résumant un peu, bien raison. Ce que je peux vous dire, c'est que le désespoir est mobilisateur, et que lorsqu'il devient mobilisateur, il est dangereux, et que ça entraîne le terrorisme, la bande à Bader et des choses comme ça. Et ça, il faut que les grandes personnes qui dirigent le monde soient prévenues que les jeunes vont finir par virer du mauvais côté parce qu'ils n'auront plus d'autres solutions. Voilà, et je vous remercie de m'avoir laissé parler.
Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que cette façon de penser, de réagir, et aussi de s'exprimer, parce qu'enfin Daniel Balavoine s'exprime par l'écrit et par la musique, et droit de citer, puisse être entendue, et donc puisse être comprise. Il le dit à sa manière. Il est responsable de ses paroles, c'est un citoyen, comme un autre, mais typique. Et quand je dis typique, c'est parce qu'il représente, à mon sens, des centaines de milliers de jeunes. Conditions de vie, où, dans quelle banlieue, quel logement, quel loisir, entrant dans une société bétonnée, qui se ferme partout devant eux, avec le chômage pour perspective. Je pense que quelqu'un qui sait dire et chanter, c'est-à-dire exprimer sous la forme de l'art, un drame vécu de cette force, devait être entendu lors d'une émission de ce genre.
Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, aucun chanteur qui a son aura, sa présence médiatique et son engagement du cœur, aucun chanteur aujourd'hui n'oserait ce qu'il a osé en son temps. Où sont les artistes aujourd'hui qui ont les mêmes engagements et au même niveau que lui? Où sont les hommes qui font, sans vouloir y prendre une part de gloire avec la fève et la couronne, qui, au final, dans les dernières années, a donné sa vie au danger? Bref, ce n'est pas à nous, ici de répondre car nous voici rendus à la fin de cette 8e visite de la saison 9 du Panthéon décousu. Rediffusion à l'antenne de Radio Alpa et podcast très bientôt disponible partout. Mais nous ne quittons pas sans musique et sans un titre encore une fois engagé, Frappe avec ta tête. En 83, toujours, Balavoine a chanté le sort des artistes emprisonnés et torturés en Amérique latine. Aujourd'hui, il serait question d'autres pays autour de la Méditerranée, en Iran, en Afghanistan, en Afrique noire et sur Balavoine est toujours d'actualité. Bonne semaine à toutes et tous à l'écoute de Radio Alpa et d'ici là, ne manquez pas d'avancer libre, au moins dans la tête.
Sous la torture, derrière les murs, les yeux remplis d'effroi, l'homme veut plus souffre et endure les coups sourds de la loi, noyé par les bulles rouges, ses mots muets s'élèvent et s'écrasent sur la paroi. L'écrivain plie mais ne rompt pas, ressent avec sa tête. Mais ils ne savent pas qu'on ne se bat pas contre les hommes qui peuvent tout, surtout pour ceux qu'ils croient.
Voilà, et je vous remercie de m'avoir laissé parler.